assistant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour à tous, je reçois aujourd'hui Jérémy Duval. Alors Jérémy est un personnage un peu atypique. Il n'est pas protestant d'origine, mais c'est pas ça qui le distingue. On en a vu beaucoup. Mais c'est surtout le fait qu'il a été pasteur et que, jeune encore, il a démissionné pour avoir une autre activité professionnelle. Et malgré ça, il continue à œuvrer dans notre Église en tant que prédicateur local. Il va nous expliquer tout ça. Alors, Jérémy, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous parler de vos débuts dans le protestantisme ? Vous avez eu une éducation catholique ?
Tout à fait. Une éducation catholique suivie, le catéchisme quand j'étais petit dans mon village. Puis le catéchisme a continué à Saint-François-Régis, qui est pas très loin d'ici d'ailleurs, à Montpellier, où je servais aussi la messe.
Comme enfant de cœur.
Comme enfant de cœur, voilà. Et puis j'ai été donc confirmé catholique en église de Montpellier, avec en lien avec le collège Saint-François-Régis, voilà.
D'accord. Et vous n'aviez pas de contact avec des protestants, ou vous en connaissiez quelques-uns ? Il y a eu une influence dans votre enfance, ou pas du tout ?
Aucun. Aucune connaissance du protestantisme en réalité. Je découvre au début de mon protestantisme qu'il y a une culture un peu anti-protestante, mais pas dans ma famille. En fait, il n'existait pas de protestants. Tout simplement, donc il n'y avait pas de conflit.
Oui, c'est assez curieux parce qu'on est quand même près de Montpellier. Vous êtes né à Morin, c'est ça ?
Je suis né à Montpellier, j'ai grandi à Morin, mais de parents qui descendaient de Paris. Et les protestants, ça n'existait pas tellement en réalité.
Ouais.
Les seuls moments où je suis en contact avec le protestantisme, c'est la littérature, c'est le cinéma. Donc c'est un protestantisme très américain en réalité.
D'accord.
Au collège, au lycée, par la suite, il y avait une protestante dans ma classe avec qui je m'entendais pas du tout, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une nouvelle règle, elle la remettait en question. Et moi, mon éducation jésuite était plutôt de savoir comment on allait contourner la règle.
D'accord, mais discrètement.
Voilà, exactement.
D'accord.
Exactement.
Ok. Oui, parce que moi, j'ai eu aussi ce même parcours. Et effectivement, dans l'Est où j'étais, le Nord-Est, il n'y avait pas de protestants, on ne connaissait pas. Et effectivement, on a du mal à s'imaginer, après, quand on arrive à Montpellier, mais même à Montpellier, donc c'est assez curieux de voir que c'était... Alors peut-être le fait que le collège était un collège privé, donc...
Privé, que j'habitais dans un village. Et,
ouais.
Et en fait, l'histoire, je l'ai appris par la suite, quand je suis allé demander mon extrait d'acte de baptême pour le présenter à la CDM. J'ai revu le curé qui était de la paroisse de Morin, le père Ravaille, surnommé Ravaillac. Ouais. Quand je lui ai dit pourquoi je demandais l'extrait de baptême pour devenir pasteur, il a clos l'entretien et m'a remercié.
Il n'a pas été très chaud.
Non. Et j'ai appris par la suite que quand il est arrivé à Morin, il y a un centre œcuménique.
Ouais.
À Morin, il n'y a pas de temple, il n'y a pas d'église, c'est un centre œcuménique. Et la première chose qu'il a fait en arrivant, je le sais d'une des catéchettes de mon enfance, il a mis des vitraux et posé une vierge.
Bon, alors effectivement, une vierge dans une salle pour faire des relations œcuméniques, ça part pas très très bien. Ok, donc finalement, pas d'influence protestante à part donc la littérature.
Voilà, la littérature, les films. Je me souviens d'un film avec Gary Oldman, La lettre écarlate. J'ai pas lu le roman, mais j'avais vu le film et ça m'avait passablement troublé.
Ouais.
Et voilà, c'est tout ce que je connaissais du protestantisme. Et quand je décide de devenir pasteur, c'est une idée absolument saugrenue. Je crois que j'en suis sûr aujourd'hui, j'essaie d'échapper à un destin.
Ouais.
C'était quelques mois avant le bac et je suivais une voie que j'avais pas choisie, qui était la voie de mes grands frères, que j'avais pas choisie, à laquelle j'avais acquiescé sans vraiment le savoir. Et j'essaie d'échapper à un destin. Et le seul recours que j'ai à ce moment-là, c'est la prière.
D'accord.
Que j'avais un peu abandonné à l'adolescence. Je me remets à prier. Et si toute mon éducation catholique me dit « entre en religion », la seule chose que je sais du protestantisme, c'est que les pasteurs peuvent se marier, fonder une famille. Et je traduis le « entre en religion » par « deviens pasteur ».
D'accord. C'est donc uniquement, enfin, c'est donc l'argument principal pour devenir protestant. C'est l'idée de devenir pasteur et de pouvoir être libre de vivre sa sexualité, fonder une famille.
Exactement. En réalité, c'est un autre revers de cette même pièce, hein, qui est de dire, est-ce que je vais prendre des engagements qu'à 17 ans, 18 ans?
Ouais.
Je sais que ne pas pouvoir tenir.
D'accord.
Donc c'est vraiment aussi un enjeu de vérité qui se joue.
Ouais.
Et voilà. Donc cette idée saugrenue, je la partage avec ma mère qui s'inquiétait de mes dossiers d'école puisque j'étais dans l'année du bac et je lui présente ce projet. Elle était kiné à Morin. Kiné, c'est un peu comme coiffeur dans un village. Tout le monde parle.
Ouais.
Et elle découvre qu'un bon tiers de sa clientèle, en réalité, est protestante.
D'accord.
On lui indique l'Institut protestant théologique. Et dans la semaine de mon annonce, je savais la suite à faire.
Oui, c'est quand même un parcours assez atypique parce que, en fait, vous devenez protestant en même temps que vous faites la fac de théo. C'est quand même un engagement.
Je dirais même mieux.
Ouais.
Je deviens protestant après être entré en fac de théologie.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire, je découvre le protestantisme dans la première année, et à la fin du premier semestre, je dis, ben oui, mais en fait, c'est ma place.
D'accord. Et est-ce que vous avez eu peur, à un moment, finalement, de faire fausse route, de s'engager dans des études protestantes, enfin, sur le protestantisme, et puis de découvrir que ça ne vous plaît pas? Il n'y a pas eu cette peur, quand même?
Non, peut-être c'est dû à l'inconscience de la jeunesse que je salue, même si je peux plus aujourd'hui le faire comme ça. Mais à ce moment-là, voilà, on y va. Et non, j'ai pas cette crainte. Merci Monsieur Freud. J'ai cette crainte vis-à-vis de ma maman qui a, comme toutes les mamans, envie que les enfants qui font des études débouchent sur quelque chose.
D'accord.
Et là, je sais que je vais un petit peu dans un parcours atypique, ma mère est un peu inquiète, mais sans trop me le faire peser,
voilà,
en
sans
réalité.
Trop, donc, sans si trop le manifester.
Si j'ai une seule inquiétude, c'est est-ce que je commence des études qui vont me permettre aussi de devenir indépendant.
Et, oui,
voilà.
Oui.
C'est l'inquiétude que... Voilà.
D'accord. Et alors, finalement, l'envie de rentrer dans une faculté de théologie, c'est de devenir pasteur, de vivre votre foi, mais de façon en accord avec vos désirs de fonder une famille, de vivre une vie sexuelle.
J'allais dire normale, réalité, dans le monde. Mais au fond, quand je découvre à la faculté de théologie ce qu'est le protestantisme, quand je sais que j'y adhère...
Oui.
Je doute du ministère pastoral à ce moment-là. Je me dis.
D'accord. Alors, on va y venir parce que bon, vous aviez donc une image du protestantisme au moment de rentrer dans la fac, et donc là, ça colle à peu près. C'est conforme. Il n'y a pas de.
Oui et non, parce qu'en fait, je connaissais rien. C'était qu'une image.
Effectivement,
je découvre les fondements du protestantisme, les sola scriptura.
Alors, sola scriptura, ça veut dire
l'écriture seule,
voilà.
Le Christ seul, à Dieu seul la gloire. Et voilà, ce mouvement, au fond, me l'explique mieux que ce que j'avais pu entendre à l'école primaire, parce qu'on parle un peu d'histoire, et donc forcément, à un moment donné, des guerres de religion. Et je comprends, et je me passionne pour la théologie, je me passionne pour le Nouveau Testament, le grec.
Oui, parce que c'est quand même curieux. Vous rentrez à la fac de théo sans jamais avoir fait une seule séance d'école biblique, de catéchisme. C'est quand même un parcours assez atypique. Ça a été difficile d'intégrer tout ça, parce que vous n'aviez aucune notion. Alors, peut-être un petit peu par l'éducation catholique.
J'avais un petit peu de catéchisme chrétien,
ouais.
Assez basique,
ouais.
Mais effectivement, à la faculté, je me rends compte que je ne connais pas la Bible comme mes collègues protestants connaissent la Bible, sont capables de citer des passages.
Bien sûr.
Et moi, ça m'est impossible. La première année, je lis la Bible de Genèse à Apocalypse deux fois dans l'année.
Ouf.
Et je me perds complètement.
Y compris les nombres, le Lévitique, Deutéronome.
J'ai peut-être sauté quelques passages.
Oui, parce
il y a peut-être quelques passages sur lesquels j'ai tombé la tête.
Oui, les généalogies, là, c'est pas... Voilà.
Mais je lis quand même de A à Z, deux fois. Et je me rends compte que j'ai pas le niveau de connaissance
ouais.
que les autres ont eu, je dirais, dans leur éducation, quasiment au biberon.
Ouais.
Mais je me démonte pas, même si ça a été compliqué la première année, mais même avant la première année, mon inscription.
Oui.
J'ai failli ne pas être inscrit, refusé à l'inscription
ah ouais.
par le doyen de l'époque,
ouais.
le professeur.
Oui, ben on va pas donner de nom.
Mais il a bien fait, au fond.
Oui.
Il a bien fait parce qu'il a questionné mon désir et donc de garder ce questionnement-là, de rien prendre pour acquis, c'était une très très bonne idée au fond.
Oui.
Il trouvait mon projet complètement saugrenu. Il avait raison. J'en étais pas tout à fait conscient.
La difficulté finalement d'être accepté qui vous a encore encouragé à continuer.
Je ne sais pas si ça a fonctionné comme un encouragement, mais j'ai persévéré.
Ouais.
J'ai persévéré et je le regrette pas du tout.
Et alors pour les études, donc ça vous a demandé un investissement plus fort que les copains, parce qu'il fallait.
Alors oui et non.
Non, oui et non. Alors
non,
expliquez-nous ça.
J'ai fait du latin jusqu'au bac et du grec.
D'accord.
Et donc j'avais certaines facilités de ce côté-là,
ouais.
là où mes collègues ramaient beaucoup.
Ouais.
Et au fond, ce que j'avais surtout à rattraper, c'est une aisance, une fluidité vis-à-vis du texte biblique.
D'accord.
Vraiment, c'est la seule chose par rapport à mes collègues. Parce qu'on découvrait aussi notre manière de lire l'histoire, on découvrait les sciences humaines, la psychologie, la psychanalyse, on découvrait tout un tas de choses, et ça, on l'a découvert ensemble, en réalité. Mais ma formation en langue morte m'a quand même pas mal facilité le parcours.
D'accord. Le latin, ça n'a pas dû aider, quand même, ça ne servait pas à grand-chose.
C'est la gymnastique.
Ah oui, d'accord.
Et puis, il y a quelques expressions, quand même. On a toujours du latin de cuisine en théologie.
okay.
Et la gymnastique des déclinaisons. Voilà,
ah ouais, d'accord.
Cette gymnastique-là. Ouais.
Ok. Donc, finalement, bon, globalement, ça n'a pas été trop, trop difficile, vu la motivation. Donc, très bien. Donc, après, vous faites vos études, ça marche. Et vous devenez proposant et pasteur.
Mm-hmm.
Alors, vous avez occupé 3 postes. Est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement, pas tellement les lieux, parce que ce n'est pas ça qui a de l'importance, mais qu'est-ce que vous découvrez dans la fonction pastorale, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît moins? On y reviendra, mais enfin, on peut déjà faire un petit résumé.
3 postes, le premier dans les Cévennes. En ruralité et je découvre qu'il pour le coup une fonction publique qui peut être un peu plus intense qu'en ville puisqu'il y a on est moins
ouais.
et voilà le pasteur le maire ça fonctionne encore
oui.
un petit peu et donc ça ouais, parfois je doute d'avoir on va dire les épaules pour ça je découvre qu'il faut être absolument polyvalent
ouais.
On peut faire un enterrement le matin et le soir faire la fête de Noël avec les enfants.
Ouais.
Donc on peut dans la même journée rire avec ceux qui rient et pleurer avec ceux qui pleurent.
Ce qui est très biblique.
Ce qui est très biblique, tout à fait.
Ouais.
Ah oui, depuis je connais un peu la Bible.
oui.
Et donc je découvre ça, la route, beaucoup de routes.
Ah oui. Puis pas des routes faciles dans les Cévennes.
Pas des routes faciles, mais voilà. Je découvre voilà tout ça qui à la fois me plaît, parfois me pèse.
Mais qui conforte ou qui met en difficulté, qui questionne l'engagement.
Qui questionne toujours ma fonction de pasteur au fond.
D'accord.
Je me suis jamais senti complètement pasteur voilà.
On y viendra sur justement l'adéquation avec le pastorat. Enfin bon, et les autres postes donc en dehors des Cévennes, ça a été
un peu plus court dans le Tarn. Et là, on avait commencé à mettre en place avec mon épouse qui n'est pas baptisée,
ouais.
mais qui n'est pas antichrétienne non plus. Des choses un petit peu. Aux frontières de l'Église, cirque et Bible, par exemple, qui avait été enrichissant, mais qui était difficilement reçu par le conseil presbytéral.
Cirque et Bible.
Oui, oui, oui.
Ah, vous pouvez nous en dire deux mots, parce que c'est pas très courant.
Non, l'expérience a duré un an et demi et s'est arrêté pour nous, en tout cas, à ce côté-là. Ce qui était assez intéressant, c'était qu'on partait d'un texte biblique avec ma femme qui n'a aucune connaissance biblique, donc elle posait vraiment des questions fraîches sur un texte biblique. Et donc ça me donnait le challenge d'expliquer, de donner quelques clés de lecture. Et là-dessus, elle rebondissait sur des exercices qu'on pouvait faire. Avec des balles, avec des boules, en acrobatie. Et du coup, on construisait ensuite la séance à l'envers, c'est-à-dire qu'on commençait par du cirque,
d'accord,
par mobiliser le corps.
Ouais.
Et en mobilisant le corps, au fond, on mobilise aussi le cerveau.
Bien sûr.
Il faut quand même arriver à coordonner des gestes.
Ouais.
Et de là, on passait à un texte biblique. Et on estimait avoir réussi, et c'est quasiment arrivé à chaque séance, quand un enfant disait « Ah, mais ce qu'on lit là, c'est ce qu'on a expérimenté là. »
Ah oui, là c'est...
Voilà, une heure et demie de séance. Et quand on avait ça, on savait qu'on avait touché, ça marche. Et dans l'ensemble, on l'a eu quasiment à chaque fois.
Et vous connaissez des autres expériences de cirque et Bible ? J'ai jamais entendu parler de ça. Et...
Aucune.
Ben, c'est...
Aucune.
S'il y a des gens qui sont intéressés par l'expérience, qui nous le fassent savoir, parce que c'est effectivement quelque chose d'assez peu commun. Enfin, j'ai jamais entendu parler. Et puis, on va faire un petit bond dans le temps. Donc, vous démissionnez en 2016 pour convenance familiale.
Alors, je demande une disponibilité pour convenance familiale, convenance personnelle. Effectivement, la vie de famille est un peu difficile. Au printemps 2015, mon fils aîné, qui a alors 7 ans à ce moment-là, me dit « Mais papa, quand est-ce qu'on te voit ?» Je dis « Mais une partie de mon travail, je le fais à la maison. » Et il me répond « Non, tu le fais dans ton bureau.
Ouais. »
Le mercredi, je suis souvent absent. Le week-end, je suis souvent absent. Parfois, ils sont avec moi pour les animations. Mais voilà, il touche quelque chose auquel j'ai un peu de mal à répondre à ce moment-là. La dès 2015 avait été un peu compliquée pour moi aussi en paroisse, mais certainement pour beaucoup de paroisses. Et dans l'Église, c'est l'année du synode national sur la bénédiction des couples de même sexe.
Oui.
On est sorti, je suis sorti personnellement et on est sorti familialement assez épuisé par cette année. Et j'ai décidé de mettre une pause.
D'accord.
C'était une disponibilité. Je restais inscrit au rôle.
Cette expérience dont vous parlez avec votre fils, moi je l'ai entendue récemment pour une émission de « Un protestant peut en cacher un autre », une personne qui me disait que quand elle était pasteur, elle ne voyait jamais ses enfants parce que quand les enfants étaient à l'école, les siens étaient à l'école aussi, et puis elle travaillait avec les enfants, le catéchisme, donc elle ne voyait pas les siens.
C'est ça.
Et effectivement, c'est un problème des pasteurs, ça.
Les réunions le soir, alors forcément, les réunions le soir, les rendez-vous le week-end, puisque ça correspond aux horaires de personnes qui travaillent aussi.
Et oui.
C'est cette difficulté-là, cette gymnastique-là qui a été assez épuisante familialement. Donc je décide de prendre une pause et
d'accord,
de voir comment on peut faire autrement. Le secrétaire général à l'époque ne me propose rien d'autre.
D'accord. Alors, j'allais en venir là. Ce n'est pas du tout un reniement de vos convictions, mais une convenance familiale, personnelle, etc. Alors, la réaction de la hiérarchie, pas terrible. Pas beaucoup d'aide.
Non. Non, non, ils ont...
Comprennent pas.
Ils comprennent, mais ils n'ont rien à me proposer.
Ouais.
Donc, je prends une année de convenance.
D'accord. Et les camarades, vos collègues pasteurs, vous avez eu du soutien ou pas trop ?
Alors, oui, du soutien. Du soutien moral, du soutien dans la prière. Certains collègues me demandent de bien réfléchir et de revenir.
Ouais.
De revenir sur le terrain. Ce que j'entends, hein. J'y arrive pas. Le temps passe, je n'y arrive pas. Je vais au culte. Il me devient difficile d'écouter des prédications venant de pasteurs. Donc je vais au culte et j'écoute essentiellement des prédicateurs laïcs.
D'accord. Ben, on va venir justement sur la laïcité, entre guillemets, puisque de toute façon, le protestantisme est laïque quand même. Mais auparavant, nous allons écouter un morceau de musique que vous avez choisi. Donc c'est un groupe qui s'appelle Culture. Et le titre, c'est « Too long in slavery », donc « Trop longtemps dans l'esclavage ». Alors, nous écoutons ce morceau.
Separation, starvation, cause the children of trouble, marveling as if them can't satisfy. Jano, shoot him up alive.
Jérémy, nous avons vu que vous avez démissionné du pastorat pour raisons familiales. Mmh. Alors maintenant, vous devenez laïque, donc comme on dit. On va voir après comment on peut parler de laïque. Mais en choisissant le protestantisme, vous avez adopté donc les valeurs de l'Église réformée. Vous avez représenté l'institution. Mais vous avez quitté le salariat. Alors d'abord, dites-nous un petit peu, si vous le permettez, parce que là, c'est quand même personnel. Si vous voulez pas en parler, on n'en parle pas. Chacun est libre de répondre aux questions. Mais vous trouvez une autre profession en dehors donc du pastorat?
Alors, je suis obligé de bricoler, hein, puisqu'en étant en disponibilité pour convenance personnelle, on n'a aucune aide. Et je m'inscris au Pôle emploi à ce moment-là, mais ça aide pas. Enfin, ça sert pas à grand-chose à ce moment-là. Et donc, je bricole pendant 3 bonnes années. Je vais sur des salons, des foires, des marchés pour être vendeur dans de l'artisanat.
Ouais.
C'est un ami qui d'abord me prend dans sa boutique et puis voilà, je me mets donc en auto-entreprise pour être vendeur sur étal.
D'accord.
Donc un ambulant.
Mmh.
Et je fais ça pendant 3 ans. En même temps, je consacre du temps à ma famille, puisque c'était
l'objet. Bien sûr, c'était le but.
C'était le but. Du coup, on s'installe dans les Cévennes. On a eu la chance d'arriver dans un lieu et on confirme qu'on va investir aussi ce lieu. Donc, en temps, en argent, je fais des travaux ici et là. Et au bout de 3 ans, on a l'arrivée de la dernière de la famille. Donc, j'ai 3 enfants.
Ouais.
Et en 2018, elle arrive et au courant 2018-2019, ma femme me dit « Bon, pasteur, t'étais pas beaucoup là, mais ambulant, t'es pas là du tout la moitié de l'année.
Bon,
est-ce que tu peux faire en sorte
oui.
d'équilibrer encore ?» Donc me pose la question de savoir ce que je peux faire pour
Hein?
localiser le travail. Et c'est là que je demande à être radié du rôle
Ouais.
pour pouvoir bénéficier du fonds de solidarité pour convenance, pour reclassement professionnel.
D'accord.
Et du coup, j'entame en février 2020 une formation pour être conseiller funéraire et maître de cérémonie. Et en septembre 2020, après ma formation, je suis embauché dans les pompes funèbres par chez moi, là, le Vigan-Camp, Jean Duz,
D'accord.
Saint-Hippolyte.
Et ça vous aide d'avoir été pasteur dans ce dans l'accompagnement des familles? Est-ce que ou alors est-ce que c'est totalement différent?
Je pensais que ça allait m'aider. Oui, ça m'a aidé. Et il a quand même fallu une transition de plusieurs semaines, quelques mois, pour arrêter d'avoir certains réflexes.
Oui.
Voilà, j'ai eu la première fois où j'ai dû prendre la parole dans un cimetière devant 80, 100 personnes. Et j'ai eu comme une sorte de blanc qui pour moi a duré une éternité. Mes collègues ont trouvé que c'était long, ça a duré bien une minute où
Oui.
j'étais tétanisé devant les gens parce que les premières phrases qui venaient c'était frères et sœurs
Oui. Et
et
oui.
que je ne pouvais pas le dire. Et donc il y a un certain nombre de réflexes, de vocabulaire
Ouais.
qu'il faut retraduire. Donc ça a été un challenge moi, pour moi génial
Ouais.
de quelque part séculariser
Oui.
aussi la théologie dans son vocabulaire pour pouvoir faire le travail comme j'estime qu'il devrait être fait dans l'accompagnement des familles et dans la conduite des cérémonies. Alors oui, ça m'a aidé, ça c'est les retours des familles et des collègues
Ouais.
qui pour certains sont dans la fonction depuis 10 à 15 ans à ce moment-là et me disent qu'il y a une grande qualité d'écoute et de prise de parole en public et qu'ils ont rarement vu ça.
Oui,
Voilà.
oui,
Donc
oui.
oui, je pense que ça aide, mais
Il faut faire très attention de ne pas parler de résurrection à des familles qui sont
impossible,
incroyantes. Oui.
impossible,
Oui, bien sûr, bien sûr.
impossible. Mais comment, au fond, se souvenir, garder, être fidèle à ses appuis,
Ouais.
qui ne sont pas ailleurs qu'en Christ,
Ouais.
et en même temps éviter tout un vocabulaire qui pourrait être perçu comme du prosélytisme.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc cet enjeu-là, voilà, j'ai fait de la cérémonie civile pendant 3 ans, parce que là j'ai arrêté depuis un an cet emploi-là pour repartir dans le commerce de l'artisanat. Mais je réfléchis toujours au funéraire.
C'est l'accompagnement, en fait, qui est primordial, quoi. L'accompagnement des gens qui restent, de la famille, des...
Ce que j'ai appris du protestantisme, ce que j'essaie de vivre au
Ouais.
jour le jour, qui émerge pas seulement au protestantisme, il y a une histoire qui vient un peu avant, mais le protestantisme, quelque part, l'affirme et le met en pratique, c'est comment vivre sa vocation là où on se trouve, dans son métier de tous les jours, dans sa vie de tous les jours.
Ouais.
Et ça, ça rejoint ce que le jeune de 17 ans se dit en entrer en religion, d'accord, mais comment le vivre et l'incarner dans la vie de tous les jours, et pas dans un sanctuaire, dans un monastère, pas là. Et au fond, que ce soit ce que je fais aujourd'hui, et ce que j'ai fait pendant 3 ans, et que je garde, j'ai toujours des contacts avec le funéraire, c'est comment vivre sa vocation au service de l'Évangile, qui est pour moi une force de libération pour l'être humain, et comment l'incarner au jour le jour dans nos tâches les plus banales.
Alors justement, on va voir ça puisque maintenant vous êtes laïque. Alors vous allez nous dire un petit peu comment vous vivez puisque vous n'avez rien renié de vos convictions. Donc vous êtes toujours dans la lignée de l'Évangile. Donc et puis du protestantisme. Donc vous devenez, enfin vous êtes laïque. Et qu'est-ce que vous faites? Vous êtes prédicateur laïque, mais voilà, vous allez nous expliquer ce que vous faites.
Au début de ma disponibilité, très rapidement à Monoblet, j'avais été pasteur pas très très loin, hein, Sainte-Croix-Vallée-Française-la Salle, et du coup les gens savaient que j'étais pasteur. J'ai toujours essayé de faire en sorte qu'on ne le mette pas en avant parce que ben, y a des collègues qui travaillent sur le secteur.
Oui.
Et on m'a très régulièrement, très rapidement demandé d'assurer des cultes, ce que j'ai refusé pendant des mois. Et c'était un choix dès le début, c'est-à-dire tu quittes le ministère, désert.
Ouais.
Désert, rien, va au culte, mais rien d'autre. Et petit à petit, en discutant avec les collègues, puis avec l'église locale, je me remets à la prédication, parce qu'au fond, c'est une nourriture dont j'ai besoin.
Oui.
Le travail de la prédication. Et donc, voilà, il a fallu attendre entre 9 mois et 1 an pour que j'accepte...
Donc maintenant, vous êtes finalement, vous faites le même travail puisque vous faites des prédications sans être salarié de l'institution.
Tout à fait, ouais, tout à fait. Alors c'est le président de l'ensemble qui me dit qu'elle a demandé à ce que je sois inscrit sur la liste des prédicateurs laïcs et je lui dis attends, je t'arrête, je suis pas laïque. Pas plus qu'un pasteur, en réalité.
Oui.
Donc, prédicateur régional, si tu veux, local,
ouais.
Voilà, le ministère local. Mais ce truc de laïc, tu as lancé la perche plusieurs fois, j'aimerais en dire un mot. Il
oui.
dit quelque chose de notre posture d'église aujourd'hui quand on dit qu'il y a des pasteurs et qu'il y a des laïcs.
Voilà.
S'il y a des laïcs, ça veut dire qu'il y a des clercs. Et donc,
oui.
les pasteurs sont redevenus des clercs. Au moins, du point de vue de l'institution.
Ouais.
Et ça, c'est un réel problème.
Ouais.
Il n'y a pas de laïcs. Il n'y a pas de clair, on l'est tous ensemble, laïque et clair. Je suis prédicateur local, régional, alors que les pasteurs ont un ministère national.
Tout à fait.
Eh c'est oui, ça oui. la distinction, ouais. la vraie ouais. distinction qui est sur le papier. Et cette appellation laïque, elle m'a toujours énervé.
D'accord. Et alors, c'est parce que le donc laïque, clair, donc c'est parce que quelque part dans le pastorat, il y a une idée de chef.
Ouais. Ouais, alors je me souviens quand mon fils aîné a demandé son baptême à l'âge de 6 ans, je l'ai questionné, et quand les réponses qu'il m'a données, je trouvais qu'il y avait une vraie réflexion, et je dis, ben, il faut accompagner ça, j'ai appelé le président du conseil presbytéral,
ouais.
là où je me trouvais,
oui.
et je lui dis, ben voilà, mon fils demande le baptême, et je souhaiterais qu'on trouve ensemble quelqu'un pour présider ce baptême,
oui.
et l'accompagner au baptême. Et il m'a répondu, ben t'es le pasteur, tu vas l'accompagner et présider le baptême. Et je dis, ben non, parce que là, à ce moment-là, je suis papa.
Ben oui.
Donc soit je
oui, oui.
demande à un collègue
bien sûr.
Du consistoire,
oui, oui.
du secteur, de l'accompagner. Moi, je trouve que ce serait intéressant qu'il soit accompagné dans l'église dans laquelle il a l'école biblique.
Bien sûr.
Ça. Et donc, je me dis... Toi, président, tu fais des cultes, tu pourrais présider
ouais,
le baptême.
Ouais.
Il était démonté, le pauvre, en disant, mais comment, moi, je peux faire le baptême du fils du pasteur ? Je dis, mais...
Oui, oui,
et
non,
là,
mais...
Effectivement, cette image du pasteur, un peu chef, un peu au-dessus de la masse, mais ça, je le vois depuis le début du ministère. Et quelque part, c'est peut-être aussi toute mon éducation catholique qui réagit
oui,
en
je
disant
pense.
Mais attention,
oui, oui.
est-ce que vous n'êtes pas en train de refaire du pasteur un prêtre ?
Ouais. Ouais, 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 ouais.
Je
ouais,
suis
ouais.
très attentif à ça. Et il y a des petits mots.
Laïque oui. Oui, oui.
en fait partie.
Oui, oui.
Des petits mots qui me mettent la puce à l'oreille en me disant
ouais, ouais.
Il y a peut-être un souci, quelque chose qu'il faudrait repenser. Il faudrait reprendre à nouveau frais aujourd'hui.
Oui, parce que finalement, dans le protestantisme, il ne devrait pas y avoir de distinction entre le pasteur et le non-pasteur. On va dire non-pasteur plutôt que laïque. Et bon, je suppose que vous êtes d'accord avec ce que disait Régis Debray. Hein, dans le protestantisme, la place du chef est toujours vide.
Comme le tombeau.
Voilà. Oui, ça c'est... J'avais pas pensé à cette...
Comme le tombeau.
Ouais.
Et l'épisode de la résurrection, quand on me dit « Ouais, mais finalement, il vient reprendre la place », l'épisode de la résurrection, c'est souvent pour dire « Bon, ben, maintenant, je m'en vais.
Ouais. »
On devrait.
Oui, oui.
Donc oui, la place est vide. Ouais.
D'accord.
Elle n'est pas inoccupée.
Ouais. Alors la différence...
Pour moi, elle est occupée de la présence du Christ.
Ouais.
mais elle est vide de tout ce qu'on peut, nous, humains, par notre idolâtrie, y mettre.
Oui, et l'Église ne... Finalement, on ne peut pas dire que le Christ s'occupe d'une institution sur la terre et surtout pas de l'Église protestante unie de France ou Église réformée ou tout. Effectivement, le Christ, donc, ça représente des valeurs et non pas une ecclésiologie. Est-ce que vous êtes... Alors, malheureusement, l'heure avance. On va juste parler un petit peu de l'institution. Bon, pas forcément pour la critiquer, mais pour dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que l'institution vous a aidé ou plutôt ne vous a pas toujours compris? Est-ce que l'institution est bien au service des membres ou est-ce qu'elle fonctionne comme toute société humaine au service d'elle-même?
Moi, je vais faire attention à ce que je dis parce que j'aime quand même mon Église.
Oui. Toute institution a besoin d'être contestée quand même pour avancer.
Ah, surtout celle qui annonce dès le départ que c'est une Église réformée.
Toujours, toujours l'Église réformée doit toujours être à réformer, comme disait Calvin, si je me trompe
fond,
pas.
Au fond, le... m'a souvent renvoyé l'idée selon laquelle j'ai un peu du mal avec l'autorité.
Oui.
Je veux bien le croire, qu'en tout cas je donne cette image. J'ai un profond respect pour notre institution. Mais je distingue institution et administration.
Ouais.
Et je constate que dans l'histoire, beaucoup d'institutions ont dû subir malheureusement ce cancer de l'administration et de la bureaucratie et tout ce qui peut aller avec. Dans le sens où administrer une institution, c'est faire en sorte que cette institution, que l'événement qui a fondé, institué une façon de voir, une façon de vivre, une façon de lire, puisse être transmise de génération en génération. C'est pour moi le rôle de l'administration à ce moment-là. Elle est au service de cette institution-là. Et le problème, c'est quand elle prend la place de l'institution et que l'administration fait en sorte qu'elle soit, que les membres de l'institution soient au service de l'administration. Et là ça me pose un petit peu de problème. On le voit, moi, il me semble qu'on peut le voir un petit peu partout. Aujourd'hui, l'institution, oui, est toujours au service des membres de l'Église. Je ne comprends pas toujours les choix de l'administration.
D'accord.
Qui fait tourner cette institution.
Mais globalement, donc, ce que je retire quand même de notre entretien, c'est que finalement, vous avez trouvé quand même le protestantisme conforme, enfin relativement conforme à ce que vous espériez ou...
Oui, de toutes les églises que j'ai pu voir, l'église réformée dans laquelle je suis rentré, qui est devenue aujourd'hui l'église protestante unie, et pour moi, le visage de l'église du Christ, dans lequel je me reconnais le mieux.
D'accord.
Depuis mars, je suis même conseiller presbytéral de l'église de Monoblet.
Eh bien, on vous félicite,
non,
Jérémy.
Je ne suis pas sûr que ce soit à féliciter, mais au fond, ça reste mon église, malgré les critiques que j'ai pu faire et que je continuerai à faire.
Oui, il faut.
Et
il
cette
faut.
Vigilance que j'aurai à ce que jamais cette église ne redevienne catholique.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Jérémy. C'était vraiment très intéressant et je suis ravie de vous avoir donné l'occasion d'exprimer un petit peu votre parcours qui est quand même très intéressant et puis vos sentiments. Alors, je remercie maintenant nos auditeurs. Je leur donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour la suite de « Un protestant peut en cacher un autre ». À la semaine prochaine. Au revoir.
Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.